Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez Nude, le podcast de témoignages qui met le monde à nu. C'est le tout premier épisode. Pour commencer ce podcast, je vous propose une série sur les applis de rencontres. Et c'est Séverine qui nous raconte son histoire. Séverine, elle a toujours voulu être en couple. Au début de sa vie amoureuse, elle découvre les applis, donc, qui lui donnent le sentiment d'être comme Beyoncé et boostent son ego. Mais très vite, Tinder et les autres provoquent l'effet inverse et c'est catastrophique pour sa confiance en elle. Pourtant, elle va devenir accro à ses applis et pendant 7 ans, elle va toutes les essayer dans l'espoir d'en finir avec le célibat. Elle nous raconte son parcours du combattant, de l'amour sous algorithme et comment elle a fini par se libérer de la pression.
À 20 ans, donc, je rencontre mon premier amour. Vraiment, ça me tombe dessus. On se rencontre au travail, stagiaire dans la même entreprise. Et se s'ensuit 2 ans et demi de relation avec des hauts et des bas. Parce qu'on est très jeune et qu'on ne s'entend pas toujours sur tout. On est en même temps très focus sur le fait de construire notre carrière, nos études, etc., etc. Donc c'est une relation qui est un peu jeune, un peu immature, mais en même temps qui ressemble de plus à ce que j'ai eu de plus adulte. Et quand ça se termine en fin 2012... Ouais. Donc j'ai 23 ans, je me retrouve célibataire et en fait je trouve ça assez génial. Donc je redécouvre un peu cette nouvelle liberté de séduire, d'être désirable, de faire un peu ce que je veux. Et à ce moment-là, quand je m'inscris sur les sites, c'était vraiment pour booster un peu mon ego, booster un peu ma confiance. J'ai commencé sur Adopte un mec, c'était un site. C'était encore loin de l'utilisation qu'on fait maintenant des téléphones. J'en avais une utilisation qui était quand même assez limitée, puisque du coup, je me connectais pas tous les jours. Et puis, t'as pas tout le temps ton ordinateur à dispo, donc c'était une autre utilisation. Après cette phase Adopte un mec, en fait, Tinder débarque. C'était tellement différent sur mobile, en plus, cette espèce de catalogue comme ça de rencontres possibles géolocalisées, c'était quand même très différent. Quand j'ouvre Tinder la première fois, je me dis waouh, c'est dingue toutes les possibilités qu'il y a autour de chez moi. Je me dis je peux aller sur Tinder sur mon canapé le dimanche sans être maquillée et rencontrer des mecs. Donc je trouve ça génial quoi. Et donc moi, je commence à parler, à matcher. Je trouve que le principe est hyper original. Tu vois, le fait de ne pas savoir si la personne, tu lui plais ou pas, jusqu'au moment où tu matches, donc tu swipes à droite et tu te rends compte si oui ou non la personne pense la même chose de toi. Et là, ça débloque la conversation. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ça hyper grisant.
T'es quelqu'un de très romantique, ton rêve depuis toujours c'est de te marier, enfin, est-ce que tu peux m'expliquer ça ?
Moi je suis une amoureuse de l'amour, c'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup eu d'attentes vis-à-vis de la relation de couple, j'ai beaucoup idéalisé aussi le fait d'être à deux, le fait de faire des choses à deux, d'avoir cette espèce de soutien permanent, indéfectible, où t'as toujours cette personne à côté de toi, qui t'aide, qui t'aime, qui t'écoute. Donc pour moi, c'est cet idéal. Donc la finalité pour moi de ces sites de rencontres, c'était de me mettre en couple. « je rencontre des garçons qui finalement sont vachement enthousiastes sur le site, à me faire des compliments, à quel point je suis jolie, gentille, drôle, etc. Et ensuite, quand on se rencontrait dans la vie réelle, tu te rendais vite compte que ce qu'ils voulaient, c'était soit coucher avec toi, tout bêtement. Soit finalement rencontrer le plus de filles possible. Donc du coup, très vite, j'ai été un peu déçue. Et donc, j'enchaîne des rencontres vraiment, mais plus absurdes les unes que les autres. Je me souviens d'un mec que je rencontre un vendredi soir. Et en fait, je fais une soirée entière avec quelqu'un qui ne me pose aucune question. Qui me parle que de lui. Il me dit donc qu'il a fait de la prison en Thaïlande. Il me parle de ses tatouages, il me dit qu'il a des tatouages sur le torse écrit « Only God can judge me ». Il me dit qu'il est de la famille de Mesrine. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Moi, j'écourte un peu le rendez-vous, je rentre chez moi en me disant « Mais ma pauvre fille, mais pourquoi tu perds ton temps avec des mecs comme ça ?» Et après, dans l'autre sens aussi, j'ai fait des dates avec des garçons qui ne m'ont pas rappelé. Alors que clairement, il y a eu un feeling, j'ai un feeling avec un mec, et puis je lui envoie un message, et puis finalement, il ne me propose pas d'autres dates. En un date ou deux, tu as l'impression que tu n'as pas réussi à transformer, et que sur des critères assez minces, comme le premier rendez-vous, ben, la personne en face se fait une idée de toi, alors que tu es tellement plus que juste un date autour d'un café.
Au départ, tu fais ça, c'est un booster d'ego, et en fait, après, ça s'inverse, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, tu es un peu surpris par les sollicitations, les messages, les matchs. Tu as tous ces mecs... T'as l'impression vraiment d'être Beyoncé parce que tu reçois des messages, ils sont tous plus dithyrambiques sur tes photos, sur ceci, sur cela, sur tes loisirs, tout leur semble merveilleux, ce que tu fais est merveilleux. À chaque fois, une petite découverte, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Est-ce que j'ai rencontré l'homme de ma vie? Enfin, et puis, petit à petit, tu te rends compte que les personnes avec qui tu matches, tu vas leur parler quelques semaines, et puis quand tu vas vouloir aller plus loin, bah, il n'y a plus personne derrière, pour des raisons que je ne comprends pas toujours. Ils n'ont pas nécessairement envie d'aller sur de la rencontre physique. Ensuite, tu as ceux avec qui tu penses que tu as un bon feeling, et puis qui finalement ne donnent plus de nouvelles, te ghostent du jour au lendemain. Tu as ceux qui vont te bloquer. Quelle horreur de se faire bloquer. Enfin, les mecs qui matchent avec toi mais qui ne donnent pas suite. Les mecs que tu rencontres, tu fais un date ou deux qui ne te rappellent pas. Et ça, pour les gosses, c'est dévastateur. Et donc, je perds vraiment confiance en moi au fur et à mesure. Je me mets à prendre très à cœur des comportements. Je pense notamment à une fois où je match avec un garçon qui était très sincèrement, vraiment très beau. Et je pense que je n'aurais jamais matché avec lui dans un contexte, on va dire, un peu plus classique. Et donc, je me lance. Je me dis, attends, c'est trop beau pour être vrai. Le mec est vraiment magnifique. Je vais envoyer le premier message. Chose que je ne fais jamais. Je lui envoie un message et en fait, elle reste lettre morte. Donc, les jours passent, il ne me répond pas. Je commence à bouillir presque de ce silence. Et en fait, je reprends mon téléphone de rage un jour et je lui envoie un message, un deuxième, et je lui dis quelque chose qui faisait mais vraiment tellement rageuse. Et je lui dis, c'est bien la peine de matcher si tu ne réponds pas au message. Le mec me répond et me dit, c'est le jeu, entre guillemets, j'ai ratissé large, j'ai matché un peu avec toutes les filles, si je te réponds pas, c'est que tu me plais pas, quoi. Et j'ai trouvé ça, mais d'une violence. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu en viens à devenir amère avec des mecs qui ne savent pas qui tu es. Ce n'est pas contre toi, en fait. Et je prends de plus en plus mal le rejet. Tu te retrouves dans des situations où tu te remets tout le temps en question parce que tu ne comprends pas. Dans la vraie vie, comme je dis, jamais quelqu'un n'aura un comportement comme ça. Et sur les sites de rencontres, j'ai l'impression qu'on se permet tout un tas de comportements un peu dégueulasses sous prétexte que les personnes, tu ne leur dois rien. on ne se doit rien, on ne se connaît pas, donc je peux avoir des comportements, je peux dire des paroles un peu blessantes, mais c'est pas grave puisque de toute façon il y en a 10 derrière qui attendent. Je le faisais certainement aussi de mon côté, mais j'ai pris avec beaucoup de violence ce genre de comportement.
Tu l'expliques comment ? C'est un peu aussi cette idée de virtuel, donc les gens ont l'impression qu'ils ne s'adressent pas à des vrais humains.
Oui, il y a une petite déshumanisation de la relation parce que c'est virtuel et que on décide juste que on n'a pas envie de répondre à un message et en fait on ne se rend pas compte des conséquences derrière. Oui. On a ce téléphone qui fait barrière à la relation un peu humaine et aux bonnes manières en fait. Ce qui a commencé vraiment à ce moment-là à me travailler, c'était que chaque déception me donnait l'impression que j'étais vouée à ne jamais rencontrer quelqu'un pour moi.
Toi, tu étais claire sur ce que tu recherchais ? Tu disais que tu cherchais l'amour
Non. En fait, j'étais pas claire parce que je m'adaptais à la personne que j'avais en face de moi. C'est-à-dire que moi, dans ma quête de l'amour, ce que je voulais au fond, c'était un peu d'attention, un peu d'affection, un peu d'attention. Et donc, si la personne en face m'exprimait le fait qu'elle avait envie de rien de sérieux, je me persuadais que moi non plus je voulais rien de sérieux et que j'allais pour lui plaire, être d'accord sur le fait que c'était une relation sans attente. Si en face j'avais un mec qui me disait qu'il voulait du sérieux, je commençais à me faire un film en disant c'est peut-être le bon, c'est peut-être celui que je veux, etc. etc. Et donc à chaque fois je mettais un peu leur comportement passait avant ce que moi je cherchais. Oui, je pense que je devais pas être très subtile. Je pense que je faisais peur au mec. On m'a déjà dit, tu veux trop être en couple. Ça se voit trop, en fait. Dès que je sentais un petit peu que j'avais quelqu'un à qui me raccrocher, je pense que je mettais trop d'énergie et pas forcément pour les bonnes personnes aussi. Et donc que ça se sentait un peu trop que j'étais dans l'attente et dans la recherche de quelque chose et que les mecs, eux, ça les faisait un peu flipper, quoi. Et en fait, dans ma vie perso, je commence un peu à être presque angoissée à l'idée vieillir seule avec des chats.
T'étais hyper jeune, t'avais peur de vieillir seule.
Oui, et en fait, au départ, j'avais pas cette angoisse. Et chaque année qui passe, tu te dis, je suis en train de vieillir, je vois que les gens font des projets, rencontrent la personne avec qui ils veulent vous faire un bout de chemin, font des enfants, se marient, etc., achètent des apparts. Et moi, je me dis, c'est quand mon tour. Je suis un peu aveuglée par cette espèce de pression que je me mets, qui est de me dire, il faut que tu te cases, tout le monde se case autour de toi, il faut que tu rencontres le bon.
Elle vient d'où cette pression que tu te mets, à ton avis ?
Je pense que ça vient clairement de mon éducation. Je pense que j'ai toujours évolué dans un cercle familial où les gens se rencontraient assez jeunes. Donc très tôt, finalement, ils faisaient leur vie avec la même personne. Que ça soit mes parents ou mon frère, se sont rencontrés très jeunes. Et donc vers 23, 24 ans, il y a eu des mariages, 25 ans des enfants, 30 ans des propriétés. Et du coup, j'ai cette pression un peu, cette image de la réussite par le fait d'être casée. Et je commence à subir leurs interrogations, leurs angoisses. En fait, ils me transmettent leurs angoisses. Et je commence à comprendre qu'ils attendent de moi que je me stabilise et que ma réussite personnelle passe par le fait d'être à deux.
Tu le ressens comment ? T'as des remarques, clairement ?
Oui. Donc
genre
j'ai des j'ai des remarques, le dimanche, sur qui je vois en ce moment, est-ce que je suis en couple, est-ce que je vais ramener quelqu'un à Noël, donc des choses assez... Et c'est à ce moment-là que je commence petit à petit à me dire, ah mince, mine de rien, le temps passe, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que t'es célibataire et tu n'as jamais retrouvé une histoire d'amour qui a duré plus que quelques semaines. Like I have to go nowhere. If someone ever asks me, I can never say where I'll be. À ce moment-là, donc vers 2016-2017, donc ça fait déjà un moment que je suis sur les applis.
Donc quand t'avais
26-27 ans, ouais. 27 ans, je me dis que les sites de rencontre, c'est mon dernier espoir. Donc je commence à être de plus en plus active, de moins en moins exigeante. Donc je commence à multiplier les dates. Je me retrouve avec des agendas, mes agendas entiers. Dès qu'on me proposait un date, j'y allais. Je me dis, vas-y, multiplie les occasions, rencontre le maximum de garçons, mais alors sans aucun critère. C'est-à-dire, j'ai un peu honte de l'avouer, mais il est arrivé des moments où j'étais tellement angoissée de ne pas rencontrer quelqu'un avec qui faire un bout de chemin, qu'en fait, je me mets à matcher tout le monde. Tu matches tout ce qui passe, donc tu swipes droite pour tout et n'importe quoi.
Pourquoi tu dis que t'as honte de pas avoir de critères à ce moment-là?
Parce que souvent, on attribue ce genre de comportement aux hommes. On se dit que sur les applis, les garçons sont un peu les dalleux, si je puis dire, et qu'ils veulent justement maximiser les rencontres en matchant avec le plus de filles possible, et ensuite ils font l'écrémage. Et du coup, j'ai adopté un peu la même stratégie malgré moi.
Et alors, qu'est-ce que ça a donné, du coup, cette technique ?
Matcher tout le monde, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui, en retour, correspondent à tes attentes, à tes critères. Mais j'étais persuadée que si je ne matchais pas avec le plus de personnes possible, ces garçons ne me verraient pas.
Est-ce que c'est cette idée de ne pas avoir de critères, est-ce que ce n'est pas au contraire un moyen de se laisser la possibilité de rencontrer vraiment l'amour? Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui disent souffrir aussi de cette approche-là, un peu catalogue, wishlist, où on arrive avec des critères alors que finalement, on n'a même pas encore la personne en face de nous. On peut se priver de rencontrer finalement la vraie personne.
Oui, d'une certaine manière. Sur Tinder, tu te fais un avis très vite et donc tu ne te laisses pas le temps. Dès le premier date, tu vas demander à l'autre ce qu'il attend, pourquoi il est célibataire, depuis quand.
C'est un peu comme un entretien d'embauche.
Oui, c'est ça. C'est comme un entretien d'embauche. Donc on y va, il suffit de faire un pas de côté, on peut être balayé. Mais moi, ça m'est arrivé aussi. Je me souviens d'un date où je vais boire un verre un dimanche soir avec un mec avec qui j'avais matché, avec qui on avait échangé. Je m'étais dit pourquoi pas, sa photo est sympa, il fait pas de faute d'orthographe, parce que ça c'est un de mes critères quand même. Et donc je vais boire un verre avec lui un dimanche soir et je décide de prendre un verre de vin. Je lui demande donc qu'est-ce qu'il veut et il me dit pas d'alcool, je ne bois jamais d'alcool le dimanche soir. Rien que cette phrase-là, je l'ai mis dans la catégorie relou avec qui je pourrais pas me voir parce que il m'a juste dit je ne bois pas d'alcool le dimanche soir. Et j'ai pas eu cette patience. Pour moi, je me suis dit non, une fois de plus, il me correspond pas, je laisse tomber. Là où j'aurais rencontré un ami d'amis qui m'aurait dit je ne bois pas d'alcool le dimanche soir,
je n'aurais pas jugé sur ça.
J'aurais sûrement creusé, j'aurais sûrement essayé de savoir pourquoi. J'ai quand même bu le verre, mais je l'ai disqualifié et je suis rentrée chez moi en me disant j'ai encore perdu 2 heures avec quelqu'un avec qui ça n'a pas matché. Il s'est sûrement dit la même chose puisqu'il ne m'a jamais rappelé.
Lui s'est dit « Oh là, elle boit le dimanche soir, quelle horreur, quelle dépravée
!» Tous ces petits échecs, c'est à chaque fois pour moi, ça nourrit un peu plus cette angoisse de me dire « Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ça ne marche pas ?» etc. etc. Et donc, je me mets à avoir des comportements que je ne ferai jamais dans la vie et qui me mettent un peu en danger, comme par exemple accepter des rendez-vous, des premiers rendez-vous chez des mecs que je ne connais pas, avec qui on n'a même pas échangé par téléphone. Donc, ça pourrait être n'importe qui. Je me souviens d'un hiver, je parle à un mec depuis quelques jours, même pas une semaine tout au plus, et il me propose un soir à 22h de venir chez lui. Et moi, j'accepte en me disant... bon, bah finalement, il habite pas très loin. Et donc, je me vois, me voilà débarquer en 20 minutes chez lui, à sonner à sa porte tout en me disant mais qu'est-ce que je fais là ? Et sans même prévenir quelqu'un de où je vais. Je monte chez lui et en fait, il ouvre, la porte est ouverte. Il est même pas devant la porte, il est dans la salle de bain. Et je rentre chez un total inconnu qui me dit mais rentre, rentre. Et donc, je me dis mais... pourquoi tu fais ça ? Ça pourrait être un violeur, ça pourrait être n'importe qui. Et en fait, je vais chez lui, il se passe rien, tout va bien, on passe une soirée sympa. Je rentre chez moi, il essaye quand même un peu de m'embrasser, je lui dis que voilà, ce ne sera pas pour cette fois. Je ne l'ai jamais revu, parce que je l'ai trouvé cool, mais il n'y a pas non plus un feeling de dingue. Mais en fait, avec le recul, je me dis, mais il aurait pu se passer n'importe quoi. Et en fait, faut juste que j'arrête d'avoir des comportements pareils parce que ça peut un peu mal finir, quoi. Donc, parallèlement, à côté des sites, je rencontre quand même quelques personnes, des garçons par d'autres biais, que ça soit le travail, les amis, etc. Donc, j'entame des histoires, mais pour X ou Y raison, ça ne dure jamais que quelques semaines, quelques mois. Et plus le temps passe, et moins c'est facile de rencontrer des personnes par d'autres biais. Je suis dans ma boîte depuis 3 ans, et en fait, ben, j'ai fait le tour. Je connais tous mes collègues, je connais leurs amis d'amis. Donc, il n'y a pas 50 000 façons de rencontrer du monde. Donc, une fois que tu as balayé le professionnel et puis l'entourage amical, au final, ben, les façons de rencontrer des mecs sont minces. We almost found the exit. À chaque fois que j'entends parler d'une nouvelle appli, je me dis peut-être que les garçons seront différents là-dessus. J'ai été sur Mythique, j'ai été sur Happn, j'ai eu un compte sur Once, j'ai été sur Bumble, OkCupid.
Je voulais te demander, t'es métisse, est-ce que t'as eu des remarques racistes sur les applis de rencontre ?
Non. Par contre, je te parlais donc de Once. Et en fin de compte, je me suis vite rendu compte qu'ils me proposaient toujours le même type de profil, qui étaient tous des Noirs ou des Métisses. En gros, j'avais l'impression que c'était basé que sur ça. Et je me souviens que j'avais écrit un message au service client sur Facebook en leur demandant très naïvement « Mais pourquoi tous les profils me ressemblent ?» Sans pointer quoi que ce soit, je disais, mais c'est très étrange en fait, j'ai que des profils qui me ressemblent, qui ressemblent un peu à mon frère. Et il me disait, non, que c'était basé sur un algorithme hyper sérieux et que c'était le fruit du hasard si j'avais que le même type de profil noir ou métis qu'on me présentait. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu absurde parce que ce serait penser que on cherche exactement le même profil que soi jusqu'au physique, alors que c'était pas du tout le cas, quoi. Mais fin 2017, pour la première fois, je rencontre quelqu'un qui me plaît vraiment sur Adopte un mec. Il est beau, drôle, intelligent, cultivé, il est hyper charismatique. Et donc, je me vois clairement avec lui. On fait un premier date qui se passe super bien. On rentre même ensemble parce que le mec habite juste à côté de chez moi. Et donc, on fait le trajet ensemble, on se marre comme des baleines et on se revoit très vite. Au bout de 4 dates, il me présente des amis. Au bout de quelques semaines, voilà, on passe un week-end entier ensemble. Donc, j'ai pour une fois ce qui ressemble vraiment à une relation. Et donc, ça dure 3 semaines, 1 mois, comme ça. Donc, moi, hyper contente qu'il commence à me projeter parce que j'ai tendance à me projeter très rapidement. Et en fait, au bout d'un mois, je décide de lui présenter des amis. Il accepte. Super, je suis hyper contente. Et puis, on cale une date. Et le jour même, il m'appelle, il me laisse un message vocal et il me dit « Je suis désolée, je suis malade, je ne vais pas pouvoir venir ce soir. » Donc moi, je découvre le message vocal, je suis hyper déçue. J'appelle mon amie pour lui dire, bah voilà, finalement, ce soir, je viendrai seule. Et puis voilà, quelques heures se passent. Je me balade à Paris et je tombe sur lui. Je suis dans la rue et en fait, je le vois avec une fille. Et là, je me dis, je panique, je sais pas quoi faire. C'est l'hiver, on est en novembre-décembre, donc il fait nuit à 18h, 16h, enfin voilà, donc il fait nuit, on est dans la rue, il y a du monde, c'est Noël, donc il y a les... Il y a beaucoup de monde dans la rue, beaucoup de voilà de passages et je me dis bah je vais les poursuivre. Donc je me mets à les suivre tout en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu vas arriver devant lui. Donc je les perds de vue et en fait je suis dévastée. Je me pose mille questions. Je me dis est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'appelle pas. Enfin et il m'écrit. Parce que j'ai essayé de le joindre pour lui proposer qu'on se voit. Et il m'écrit et il me dit « Est-ce que tu peux passer chez moi ? Est-ce que tu peux passer chez moi ce soir ?» Donc j'y vais. Il ouvre la porte, pas du tout malade, en pleine forme. Et il me dit tout penaud « Voilà, je t'ai menti. J'étais pas malade ce soir. À ce moment-là, je le laisse parler. » Et en fait, je lui dis « Bah, je sais que t'étais pas malade parce que je t'ai vu. » Il se décompose et il me dit « Ah bon, comment ça, tu m'as vu ?» Donc je lui dis « Oui, je t'ai vu et t'étais pas tout seul, t'étais avec une fille. » Et là, il commence à m'expliquer que c'est une amie, que c'est absolument pas un date, mais qu'effectivement, il voit d'autres filles. Il m'explique que c'était trop pour lui, trop tôt pour rencontrer mes amis, qu'il n'est pas totalement à fond, qu'il se laisse la possibilité de rencontrer d'autres filles, que la veille même, il avait un date, alors qu'on se voit depuis un mois. Et il me dit « J'aurais jamais eu ce comportement si tu avais été quelqu'un avec qui je me projetais. » C'était d'une violence. Je suis hyper blessée. À ce moment-là, donc on est en 2018, le déclic il a commencé là en me disant il y a forcément quelque chose qui... Ça ne peut pas être toujours l'autre. J'ai commencé à me dire c'est pas possible, c'est pas les mecs qui sont des connards parce qu'ils ont tel ou tel comportement, c'est qu'il y a quelque chose qui chez moi, pas qui va pas, mais une remise en question que je dois faire personnellement. Pourquoi je vais vers ce genre de personnes ? Pourquoi j'accepte des choses alors que je devrais pas les accepter ? Pourquoi voilà, j'ai ce genre de comportement un peu, pas désespéré, mais où visiblement je me fais passer après. Et donc j'ai fini aussi par comprendre que les sites me faisaient pas du tout du bien. Et donc j'ai commencé à me désinscrire progressivement et puis d'abord on enlève les applis où on va jamais, ensuite on se désinscrit carrément, on n'a pas juste désactivé l'appli, on se désinscrit. J'ai eu 30 ans aussi, ça me faisait très peur ce chiffre, 30 ans, je me disais mais moi c'est la fin quoi, je vais mourir. Plus jeune, je m'étais imaginé qu'à 30 ans, j'aurais fait d'autres choses, que ma vie serait différente. Et donc, j'appréhendais beaucoup le fait d'avoir 30 ans. Et en fait, ça s'est bien passé. Et en fin de compte, le fait d'avoir 30 ans m'a donné plus confiance en moi. Et en me disant, tout ce temps que tu as perdu à t'angoisser, à stresser en vivant un peu dans l'après, dans le futur, à me projeter. Et en fait, je me suis un peu dit, tu sais quoi, t'as 30 ans, tant pis, t'as 30 ans, t'as pas d'enfant, t'es pas mariée, et c'est pas grave, et la vie continue, et t'es pas encore 6 pieds sous terre, donc voilà. Et donc c'est assez récent, finalement, révélation, si je puis dire. Et je me rends compte qu'en fait, il n'y avait rien de grave d'être toute seule. Enfin, toute seule, je ne suis jamais vraiment toute seule, mais ouais, maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu me mettre dans des états et m'angoisser. Et je pense vraiment que les sites, pour moi, n'ont pas du tout été bénéfiques parce qu'ils ont nourri, en fait, mes angoisses. Alors que peut-être que je me serais mis beaucoup moins de pression si j'avais juste laissé les choses se faire comme ça s'est passé quand j'avais 20 ans, quoi. Donc l'été dernier, je me dis, je laisse les choses se faire naturellement, je laisse la vie me surprendre. Et j'ai très rapidement rencontré la personne avec qui, du coup, je suis maintenant.
Et donc, tu l'as rencontré dans la vraie vie ?
Oui, donc je l'ai rencontré par des amis. Je l'ai rencontré à une soirée, tout bêtement, chez des amis. Et en fin de compte, je l'avais déjà rencontré un an auparavant à la même soirée. Et en fait, un an auparavant, je ne l'avais pas du tout vu. C'est-à-dire que j'étais...
Tu crois que tu étais tellement dans les applis que tu ne voyais plus les mecs de la vraie vie ?
Bah, je pense, ouais. J'avais l'esprit peut-être tellement embrumé, occupé, que bah, voilà, je ne me suis pas laissé la possibilité de voir d'autres personnes, quoi. Et en fait, quand là, je le rencontre, j'ai l'esprit libre. Je suis ouais, peut-être mieux dans ma peau, dans mes baskets. Et en fait, c'est, donc, là, ça fait quelques mois maintenant. Et ça se passe bien. Donc,
quelques mois que vous êtes en couple.
Ouais. Alors après, on verra où ça nous mène. Mais ouais, c'est depuis longtemps ma relation la plus suivie et que je n'ai pas rencontrée du coup sur les applis. Tous ces codes du coup de la rencontre, le fait de passer par un ami pour avoir son numéro ou le mien, le fait de savoir qu'on a des amis en commun et qu'on va se revoir dans un autre contexte, etc., etc. Je pense que c'est des choses qui m'avaient un peu manqué. D'avoir moins de pression, je ne me suis pas demandé en allant à cette soirée comment m'habiller, je ne me suis pas dit il faut que je rentre avec quelqu'un. Enfin, voilà, j'étais vraiment très libérée vis-à-vis de ça et en fait, ça s'est fait naturellement, quoi.
C'est marrant parce qu'on dit souvent c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve.
Voilà. Oui, c'est vrai. J'espère qu'en tout cas, ça puisse déboucher, mais en tout cas, pour le moment, c'est assez. Ça se passe bien.
Depuis l'enregistrement de cet épisode, Séverine n'est malheureusement plus en couple avec ce jeune homme, mais elle garde cette nouvelle et très belle confiance en elle. Désormais, vous l'avez entendu, elle est sereine face à l'avenir. Et comme elle reste une grande amoureuse de l'amour, elle est en train d'en faire son métier. Voilà, j'en profite pour vous donner quelques nouvelles. Elle a créé le Love Studio. C'est un groupe de coaching pour tous ceux qui ont envie d'une nouvelle façon de préparer leur mariage. C'est une alternative en fait au traditionnel wedding planner. Je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode. Séverine, je te souhaite un énorme succès pour ce projet. Encore merci d'avoir partagé ton histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes. Et si vous souhaitez réagir ou m'envoyer un message privé, vous pouvez le faire via la page Instagram Newt Podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. À très vite pour un nouveau témoignage sans filtre.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.